À voix nue, Caroline Brouet, cette semaine avec
Michèle Perrot, historienne.
Quatrième épisode, l'histoire est un regard. Bonsoir Michèle Perrot.
Bonsoir Caroline Brouet.
Nous poursuivons ces entretiens à voix nue avec vous dans votre appartement. Merci de nous recevoir à nouveau. C'est le quatrième temps ce soir. J'aimerais que vous nous parliez du travail de l'historienne, de la place et du rôle de la discipline de l'histoire dans la cité. Mais en venant chez vous, je pensais à quelque chose par rapport à notre précédente émission sur les femmes et sur l'histoire des femmes que vous avez contribué à révéler en l'écrivant collectivement. Je pensais à quelque chose parce que je me disais finalement, est-ce que vous iriez jusqu'à dire que l'histoire ou l'historienne que vous êtes, par ses connaissances, par les connaissances qu'elle apporte à la société sur le passé, prépare les mouvements sociaux, prépare peut-être même parfois des révolutions. Autrement dit, comme on a parlé des femmes hier, on a terminé sur ce mouvement historique qui est MeToo, est-ce que vous diriez que la connaissance qu'on a emmagasinée depuis 40 ans maintenant est une préparation, est un matériau pour ce mouvement que nous vivons actuellement de libération ou de changement dans les rapports entre les hommes et les femmes?
Je n'attribuerais peut-être pas à l'histoire un tel rôle. Hein. Je pense que comprendre, oui. Transmettre, oui. Préparer, non. Parce que au fond, on ne sait pas exactement. D'abord, on analyse mal la situation du présent. L'histoire peut y aider, mais elle se trompe souvent. Et c'est difficile de porter un jugement. Peut-être faut-il être modeste. L'histoire est une discipline parmi d'autres. Elle aide à comprendre, c'est déjà pas mal. Mais je ne lui donnerai pas un rôle prophétique, si vous voulez. En tout cas, certainement pas prophétique, à peine préparatoire. Transmettre, certainement, oui. Et au fond, l'histoire, il faut bien le reconnaître, elle est bonne surtout pour le passé. Beaucoup plus. Elle aide à démêler des fils, à comprendre des situations. De ce point de vue-là, elle est un exercice intellectuel utile pour le présent aussi. Hein. C'est certain que devant une situation présente, avec l'histoire, on peut porter des jugements faux, ça c'est encore autre chose, mais estimer les choses, préparer. Peut-être, mais pas nécessairement. Ça peut être pessimiste, l'histoire, vous savez, aussi. Hein. L'histoire peut être optimiste ou profondément pessimiste, et pessimiste au point d'immobiliser aussi.
Hein. C'est-à-dire ?
Eh bien, l'histoire, ça se passe pas toujours bien,
oui.
L'histoire. Bon. Et par conséquent, on peut, sur la situation présente, porter un jugement tellement négatif qu'il soit paralysant. Hein. Donc l'histoire n'est pas... Quand vous dites prépare, il y a un mouvement, l'idée d'une invention, d'une avancée. Hein. Et l'histoire peut aussi être un obstacle. Un obstacle à l'action, par exemple, parce que on est pessimiste sur les résultats de l'action qu'on entreprend en raison des expériences passées.
Oui, souvent, d'ailleurs, ça est devenu une expression presque courante. Voilà, on parle des leçons de l'histoire, et souvent on dit on ne tire aucune leçon de l'histoire ou du passé.
Oui. Je serais très réservée sur les leçons de l'histoire. Je pense que c'est très difficile d'en tirer des leçons. On le voit aujourd'hui, devant ce qui se passe en Europe, avec le problème Ukraine-Russie. Qu'est-ce qu'on avait vu venir ? Pas grand-chose. Et bien sûr, l'histoire peut servir. On peut comprendre qu'on est devant un mouvement des nationalités, en définitive. Hein. L'Ukraine, nation consciente d'elle-même, qui aspire à son autonomie depuis longtemps. La Russie qui, elle, se pense comme le grand empire russe, amputé parce que l'Ukraine s'en va. La géopolitique peut s'expliquer se comprendre en regardant ce qui s'est passé en Europe au XIXe siècle. Absolument. Est-ce que ça nous dit comment vont évoluer les choses? Pas nécessairement. On ne le sait pas vraiment au jour d'aujourd'hui.
On pourrait parler également du retour des extrêmes droites, de la montée des populismes, et se demander pourquoi, là encore, on ne tire pas leçon des expériences passées.
Oui, on pourrait absolument se dire ça. Peut-être ça nous met plus en éveil devant ce qui se passe. On se dit, attention, dans les années 30, on n'a pas voulu voir le fascisme qui montait. Aujourd'hui, le populisme, est-ce que ce sont les habits modernes style du fascisme? Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que c'est pas tout à fait la même chose? Il faut pas non plus, faut pas plaquer les explications historiques sur le présent. Parce que le présent représente une nouvelle combinaison. Il s'est passé tellement de choses depuis les années 30, c'est considérable. On n'est plus tout à fait dans la même société. On n'est plus dans la même société, ni du point de vue technique, ni du point de vue social, ni du point de vue des représentations. Donc, tout ça va faire des nouvelles combinaisons et on ne peut pas dire que c'est la même chose. Enfin, c'est autre chose. C'est là où c'est compliqué. L'histoire peut être utile, mais elle n'a pas les leçons dans son sac.
Croyez-vous, comme Patrick Boucheron, que l'historien ne travaille pas sur le passé, mais avec le passé, et qu'il n'y a d'histoire que contemporaine?
Oui, je serais assez d'accord avec ce que dit Patrick Boucheron. De toute façon, le titre de l'émission, je le revendique tout à fait. Oui, l'histoire est un regard. L'historien, il est dans un temps présent, et c'est avec sa société, lui-même, son passé, la situation de sa discipline, très important, l'historiographie par conséquent, c'est avec tout cela qu'il va regarder le passé, essayer d'en faire l'histoire, de le comprendre, etc. Donc, oui, d'une certaine manière, l'histoire n'est que contemporaine, elle est faite par des gens actuels qui regardent le passé. D'un autre côté, mais je pense que Patrick Boucheron ne contredirait pas sur ce point non plus, il y a aussi des accumulations. L'histoire déblaie des choses, elle les met en forme, elle les raconte, elle collecte des sources. Et il y a aussi des transmissions qui se font. Il y a aussi un côté, je sais pas moi, biologique, si vous voulez, biologique. On fait des expériences en laboratoire, on transmet les résultats aux suivants. Ça, c'est quand même vrai, ça. Il y a des sources, par exemple, qui ont été mises au point par nos prédécesseurs, les éditions de correspondances, de choses. C'est des choses que l'historien actuel va parfaitement exploiter. Mais effectivement, il exploitera beaucoup plus facilement des sources, il sera reconnaissant à ceux qui les auront tirées de l'ombre et éditées, par exemple, ou organisées, qu'à une interprétation. Cette interprétation, il va à nouveau la regarder comme un matériau historique d'autrefois. D'où l'historiographie, d'ailleurs, l'historiographie, histoire de l'histoire. C'est très intéressant de voir comment un regard historique a changé, a évolué. Ça devient à soi-même un objet d'histoire. Quelquefois, l'histoire me fait penser aux poupées russes, vous savez, qu'on défait des plus grandes aux plus petites en trouvant toujours une plus petite derrière. Parce que le regard se décortique comme ça. Pourquoi est-ce que les gens ont fait l'histoire comme ça? Voilà. Ou ne l'ont pas fait?
Oui, justement. Sur quoi, par exemple, vous diriez que le regard a changé? L'histoire a changé de regard? Sur quel sujet, par exemple?
L'histoire a beaucoup changé, par exemple, en prenant en compte l'histoire de la vie privée. L'histoire de la vie privée, elle était faite accidentellement par les historiens du passé. Ils pouvaient, bien entendu, leur arriver de parler des maladies du jeune Louis XIV, de ses amours, mentionner des choses. Mais c'était plutôt des analystes, des gens qui faisaient des chroniques. C'était pas un objet d'histoire. Enfin, si on lit les mémoires de Saint-Simon, mais Saint-Simon est une source, il fait pas vraiment l'histoire, il raconte son temps. Je pense que l'histoire de la vie privée comme objet d'histoire, bah, on pourrait se référer à la grande histoire de Ariès et d'Huby, hein, histoire de la vie privée. Quand ils ont lancé ça au milieu des années 80, c'était nouveau, c'était tout à fait nouveau. Ça a été considéré comme quelque chose de nouveau. Et d'ailleurs, cette histoire de la vie privée appartient à ce qu'on appelle la nouvelle histoire. Hein. La nouvelle histoire des années 80, qui, héritière des annales, Marc Bloch, Lucien Febvre, va plus loin dans l'exploration de l'intime, de la vie privée, de l'histoire de l'enfant, et les femmes sont là, elles apportent évidemment leur regard, mais en même temps, elles bénéficient aussi de ce courant qui va beaucoup plus loin dans les objets d'histoire. Une histoire des larmes, j'ai une de mes élèves qui a fait une histoire des larmes, Anne Buffo. Bon, eh bien, cette histoire des larmes, on l'aurait pas faite. Elle a fait ça dans les années 75, par là, 80.
Au tout début de la nouvelle histoire, l'histoire de sensibilité.
Oui. On ne l'aurait pas fait 50 ans auparavant. Hein. Les objets d'histoire changent, absolument.
Et l'histoire change parce que la société change. Là, on est justement dans les années 75. Oui. Vous nous rappeliez, Michel Perrault, que dans les années 68-70, la société a considérablement bougé. Donc l'histoire a bougé avec la société, ou parfois l'histoire devance la société?
C'est plus un tricot, c'est une tresse. Les choses s'entremêlent. La société change, les historiens changent, deviennent beaucoup plus sensibles à quantité de domaines et d'objets auxquels ils ne pensaient pas, et donc ils vont faire l'histoire autrement. Ça, je pense que c'est en effet très important.
Parlons de comment on fait l'histoire, précisément. Je voudrais vous poser une question en m'appuyant sur la réflexion de Michel Foucault, du philosophe, qui, dans une lettre à Daniel Defer en 1967, qui est une lettre citée par l'historien Patrick Boucheron dans sa leçon inaugurale au Collège de France, une lettre qu'il a écrite depuis la Tunisie où il écrivait, écrit « L'histoire, c'est tout de même prodigieusement amusant. On est moins solitaire et tout aussi libre, sous-entendu que la philosophie. » Est-ce que vous êtes d'accord déjà avec cette réflexion de Michel Foucault ?
Oui. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Michel Foucault. Il y a un côté amusant, comme il dit, dans l'histoire, parce que c'est distrayant. Hein. Faire de l'histoire, c'est très plaisant, c'est intéressant. Enfin, pour moi, personnellement, ça n'a jamais cessé de me requérir. C'est pas toujours amusant, d'ailleurs. Ça peut être triste aussi. Hein. Ça peut être mélancolique, l'histoire aussi. Mais c'est amusant parce que il y a des rencontres, il y a des choses complètement inconnues qu'on n'imaginait même pas et qu'on découvre en le faisant. Hein. La philosophie, elle peut peut-être être collective aussi. Hein. J'imagine qu'il y a des philosophes, les philosophes ont quand même aussi beaucoup discuté entre eux aussi. Mais l'histoire est plus collective parce que on peut réaliser des travaux de recherche à plusieurs. Ça, par exemple, c'est ce que faisait beaucoup à l'École des hautes études. À l'École des hautes études, ils lançaient des enquêtes en partageant le travail entre plusieurs historiens, en ayant des crédits pour que des étudiants viennent compléter. On peut faire des équipes. On peut faire des équipes pour défricher un certain nombre de champs historiques. Je pense à la démographie historique qui a été, dans les années 50, grande demandeuse d'enquêtes démographiques sur les statistiques. À ce moment-là, il fallait presque tout faire à la main encore. Bon, donc on pouvait se mettre à plusieurs pour faire des enquêtes quantitatives ou dépouiller des correspondances avec des mots-clés. Enfin, donc il y a un côté collectif dans l'histoire qui n'existe probablement pas en philosophie, qui montre d'ailleurs une différence presque de nature entre les deux disciplines. Hein. C'est pas la même chose de réfléchir sur une pensée qu'on va peut-être inventer aussi, beaucoup de respect pour la philosophie, qu'une enquête historique qui va se rapprocher des méthodes de la sociologie ou de l'ethnologie pour trouver dans les sources les données, élaborer les données, au besoin par la quantification, qui a été un des grands maîtres mots de ma jeunesse, et arriver à mettre tout ça à plat pour avoir un ensemble. Pour l'histoire, il y a l'idée de sources, de trouver des sources, de les exploiter. Dans l'histoire telle qu'on l'a fait maintenant, il y a vraiment l'idée de sources multiples pour arriver à construire un objet. Donc c'est bien d'être plusieurs.
Oui. Il y a l'idée d'enquête aussi.
Oui.
Peut-être qu'il la rapproche là de versant journalistique.
Oui.
L'historien peut se faire journaliste quand il va fouiller dans les archives.
Oui.
Comme s'il menait un travail d'enquête.
Oui.
De documentation.
L'historien est un enquêteur, oui, absolument.
Et ça, c'est un moment de l'histoire que vous aimez ? Aller chercher les archives.
Ah oui, oui, oui.
Privé, public.
Oui, oui.
Chercher les sources.
Moi, j'adore les archives. C'est absolument passionnant. Pour ma thèse sur les ouvriers en grève, j'ai été surtout dans les archives publiques. Archives nationales, les fameuses séries F7, la police, WB18, les procureurs généraux. Bon, ça, c'était les rapports que les préfets ou les procureurs généraux faisaient pour le pouvoir central, généralement répondant à des questions du pouvoir. Bon, est-ce qu'il y a eu des grèves dans votre secteur ? Bon, oui, non. Bon, combien ? Et combien il y avait d'ouvriers? Et ce qui est très intéressant, c'est que dans les questionnaires envoyés par le pouvoir central, les questions s'affinent de plus en plus. Et on voit aussi l'œil du pouvoir sur les ouvriers, en l'occurrence. Donc, voir comment les éléments d'enquête que nous utilisons, nous, absolument, comment ils ont été faits, d'où ils viennent, qu'est-ce qui est dit, qu'est-ce qui n'est pas dit, tout ça. C'est extrêmement intéressant, non seulement pour les résultats que ça nous donne et qui vont nous permettre de construire nos objets, mais aussi pour quel type de regard ces gens portaient sur le monde ouvrier, par exemple, puisque on en parle là. Quelle crainte avait-il? Comment voyait-il les ouvriers? À qui s'intéressait-il? Pourquoi? C'est tout de suite une histoire du pouvoir. Dès qu'on entre dans les archives administratives, qui sont quand même très importantes en France, il faut bien voir que, en raison de la centralisation française et du développement de l'administration française, bien avant Napoléon, parce qu'avant Napoléon, il y a eu les intendants. Et les archives des intendants sont dans toutes les archives départementales et elles donnent des renseignements étonnant sur les villes, le développement urbain ou les émeutes paysannes. Je cite ces deux exemples. Bon, mais on a une administration qui a été extrêmement bureaucratique et qui, par conséquent, a produit beaucoup de papiers. Et avec tous ces papiers, avec tous ces rapports, on a des informations sur les sociétés du passé, depuis déjà assez longtemps, qui sont à la fois, encore une fois, des informations et une histoire du pouvoir. Ça nous renseigne aussi sur la manière dont l'État, si fort chez nous, considérait la société, l'administrait, la réprimait, etc., etc.
Mais est-ce que, à partir de cette information-là, que vous allez trouver en tant qu'historienne dans les archives, par exemple, vous n'avez pas besoin, Michel Perrault, d'aller questionner d'autres disciplines? Vous citiez la sociologie, par exemple la sociologie, par exemple l'anthropologie, par exemple la littérature. Est-ce que vous n'êtes pas dans une pluridisciplinarité aussi dans votre rapport à votre matière, vous, histoire ?
La pluridisciplinarité, le plus possible. C'est très important de se servir des autres disciplines. On ne s'en sert jamais assez. On ne va pas assez loin parce que souvent, on n'a pas le temps de devenir un véritable anthropologue, un véritable ethnologue. Donc, on va un peu plutôt utiliser les résultats de l'ethnologie. Pour ma part, Je citerai un exemple, Françoise Héritier.
J'allais vous la citer.
Françoise Héritier est une grande anthropologue qui a succédé à Claude Lévi-Strauss au Collège de France, qui a fait une thèse remarquable sur une population africaine et qui ensuite a théorisé les rapports masculin-féminin. Citons, puisqu'on parle d'elle, masculin-féminin, la pensée de la différence, paru en 96 chez Odile Jacob, masculin-féminin, tome 2, dissous de la hiérarchie, Odile Jacob, 2002. C'est vraiment très important parce que, avec son regard d'anthropologue, elle a montré les structures qui existent dans les rapports entre les hommes et les femmes. Et pourquoi il y a une domination masculine qu'on voit aussi loin que l'on regarde dans l'espace et aussi long que l'on regarde dans le temps. Et c'est important parce qu'elle nous permet de comprendre pourquoi c'est si difficile de changer le regard et les choses, parce que ce sont des structures plus que centenaires, c'est millénaire. Elle explique pourquoi et elle donne toutes sortes d'explications. Ben voilà, voilà pour moi, historienne des femmes, c'est un apport considérable. Ça m'aide à comprendre l'histoire en voyant les structures. Bien entendu, je ne suis pas structuraliste. Enfin, je suis structuraliste un petit peu, mais pas trop. Parce que un historien, une historienne, c'est le mouvement, c'est le changement. Tandis que les anthropologues, eux, ils cherchent
ce qui ne l'invariant. Bouge pas, l'invariant.
Voilà. Donc, entre l'anthropologie et hanté par l'invariant, l'historien fou du changement, il y a un peu de conflit. Mais enfin, on peut être complémentaire aussi. Hein. On peut utiliser les structures et voir comment ces structures changent. Bon, on pourrait, vous m'avez parlé de littérature, mais c'est très important. Et de ce point de vue-là, je dois vous dire que nos maîtres des années 50-60 étaient un petit peu fermés, enfin Labrousse notamment, sur la littérature. Pourquoi ? Parce que Labrousse disait « la littérature, c'est la littérature ». Donc c'est subjectif, c'est poétique, tout ça, et nous, on veut des sources quantitatives. Donc il vaut mieux aller, pour voir la fortune des Français à telle époque, il vaut mieux aller défricher, déchiffrer les archives des notaires que de lire Balzac. Bon, pourquoi pas les deux, hein, pourquoi pas les deux. Mais la littérature est une source prodigieuse. Et pour les femmes, alors, c'est indispensable, à la fois ce que les femmes ont écrit et ce qu'on a écrit sur les femmes. Comment est-ce que Balzac voyait les femmes, hein, comment est-ce que Proust parle des femmes, etc., etc. Donc, plonger dans la littérature, c'est plonger à la fois dans l'expression des femmes, il y en a quand même quelques-unes qui ont écrit, et surtout, regarder les représentations que l'on donne des femmes. Hein. Alors là, le regard de l'histoire nous dit le regard qu'on portait sur les femmes. Oui, la littérature, c'est fondamental. On pourrait multiplier les exemples. Moi, j'ai fait beaucoup d'histoire du travail, comme on en a déjà parlé, et j'ai beaucoup fréquenté les sociologues du travail. Il y avait à Jussieu, à Paris 7, il y avait justement une sociologie du travail très vivante autour de deux messieurs dont l'un s'appelait Durand et l'autre Dubois. Et ensuite, j'ai beaucoup travaillé avec Margaret Marwani, qui a développé beaucoup la sociologie du travail des femmes. Alors, nous avons beaucoup collaboré. Margaret et ses amis avaient fondé une revue qui s'appelle Travail, Genre et Société. C'est une revue qui existe toujours et qui est très importante et qui a toujours donné, elle, beaucoup de place à l'histoire. Autrement dit, il y avait une véritable collaboration entre sociologues et historiennes, notamment autour du thème du travail qui est évidemment fondamental pour les femmes.
Michel Perrault, puisqu'on est à parler de la place de l'histoire, de sa nature et de son rôle, j'aimerais aussi vous demander comment vous concevez votre rôle d'historienne dans la cité. Et puisque vous avez évoqué, mentionné le nom de Françoise Héritier, nécessairement, je pense à ce moment, assez long d'ailleurs, où vous avez siégé sous la tutelle de Françoise Héritier au Conseil national du SIDA à partir de 1989, sollicité que vous avez été par le cabinet du Premier ministre de l'époque, Michel Rocard. Est-ce que vous y étiez en tant qu'historienne ou en tant que citoyenne ?
Personnellement, je m'y suis surtout pensée comme citoyenne. Mais la demande de Michel Rocard, enfin du cabinet de Michel Rocard, c'était historienne, oui, historienne. Parce que le sida, on ne savait pas d'où ça venait, on ne savait pas comment situer cette épidémie, en était-elle une ? C'était qu'est-ce que c'était au juste ? Comment la situer dans l'histoire des maladies ? Quand j'ai dit mon étonnement, parce que je suis quand même très étonnée qu'on me demande de siéger au Conseil national du SIDA.
Vous n'êtes pas spécialiste des maladies et des épidémies dans l'histoire.
Je ne suis pas médecin, j'ai tout à fait conscience de ne rien savoir dans ce domaine. J'ai tout de suite dit, mais je ne suis pas du tout compétente. Je vous rappelle que je suis une historienne, mais on m'a répondu, mais nous le savons bien. Et c'est en tant qu'historienne qu'on vous demande d'y aller. Donc, j'étais pensée comme historienne, réfléchir au temps, qu'est-ce que ça représente dans l'histoire du corps, voilà. Bon, à partir du moment où on me demandait cela, j'ai toujours essayé de réfléchir comme ça. Mais dans le fonctionnement des choses, c'était pas évident du tout. C'était absolument pas évident. Donc, le côté citoyenne, si c'est pas facile de séparer en l'occurrence historienne-citoyenne, mais le côté citoyenne, c'est-à-dire le jugement sur une situation actuelle, sur la liberté de la sexualité, sur le fait que c'était très important que les homosexuels se prennent en main et s'affirment comme des sujets prenant leur corps en main, c'était quelque chose qui m'intéressait beaucoup comme citoyenne et comme historienne. C'était quelque chose de très nouveau aussi, tout à fait. Oui, ça a été une expérience passionnante. Ça a été une expérience passionnante parce que, devant l'inconnu qu'était le sida, le pouvoir, il faut dire Mitterrand en l'occurrence, Rocard aussi, ils ont dit, on sait pas ce que c'est, donc il faut des religions. Parce que ça, on va toucher à la sexualité. Donc, il y avait un représentant des catholiques, un représentant des protestants, un représentant des juifs et un représentant des musulmans. Est-ce que les quatre religions allaient avoir la même réaction devant la sexualité qui était au cœur de cette maladie, bien entendu. Il y avait bien sûr des médecins, et des médecins très compétents. Bon, il y avait un représentant des familles, il y avait toutes sortes de représentants. Françoise Héritier, c'était une excellente, c'était vraiment bien que Françoise Héritier soit là parce que justement elle avait son expérience d'anthropologue, mais elle était un petit peu sollicitée aussi comme libre penseuse. Et quand elle n'a plus été présidente, elle disait qu'elle était là comme libre penseuse, justement. Pas de religion, mais la libre pensée par rapport aux questions de sexualité. Donc, il y avait plein de bonnes interrogations et ça a très bien fonctionné. C'était passionnant, parfois dur, oui.
Merci Michel Perrot. On se retrouve demain soir pour la dernière.
Entendu, Caroline Brouet, merci.
Merci à vous, bonne soirée. C'était À Voix Nue. Chargée de programme Daphné Abgral, prise de son Victoria Asper, réalisation Louise André, une série de Caroline Brouet à réécouter et à podcaster sur le site de France Culture et l'application Radio France.